Chapitre 46, les relations humaines. La loi de l'interdépendance, membre d'une même humanité, maille d'un vaste filet, nous sommes tous liés les uns aux autres. Ce qui contribue au bonheur et au relèvement du prochain a sur nous une répercussion bienfaisante. La loi de l'interdépendance embrasse toutes les classes de la société. Nous avons tous besoin les uns des autres. Dans le plan du Seigneur, les êtres humains devraient se rendre utiles les uns aux autres. Si tous faisaient de leur mieux pour aider ceux qui ont besoin de leur soutien, de leur généreuse sympathie et de leur amour, quelle œuvre bénie pourrait être accomplie? Dieu a confié des talents à chacun, et ces talents doivent être employés pour que nous nous aidions mutuellement à marcher dans le chemin étroit. Dans cette œuvre, chacun est associé à l'autre, et nous sommes tous unis au Christ. C'est par le service désintéressé que nous améliorons et développons nos talents. Un double bienfait, nombreux sont ceux qui errent dans l'obscurité. Ils sont désorientés et ne savent plus que faire. Que ceux qui sont ainsi embarrassés cherchent à entrer en contact avec d'autres qui sont, eux aussi, dans la perplexité, et qu'ils leur adressent des paroles d'espoir et d'encouragement. Quand ils commenceront à faire cette œuvre, la lumière du ciel leur révélera le chemin qu'ils doivent suivre. Ils seront eux-mêmes réconfortés par les paroles de réconfort qu'ils ont adressées aux affligés. En aidant les autres, ils seront eux-mêmes aidés dans leurs difficultés. La joie succédera à l'inquiétude et à la tristesse. Le cœur, rempli de l'Esprit de Dieu, dégagera de la chaleur sur tous leurs semblables. Ceux-là ne sont plus dans l'obscurité, car leurs ténèbres seront comme le midi. Impossible neutralité, nous entretenons des rapports très significatifs les uns avec les autres. Notre influence s'exerce toujours soit en faveur du salut des âmes, soit à leur détriment. Celui qui ne rassemble pas avec le Christ disperse. Nous devrions marcher humblement et suivre de droit sentier, afin de ne pas égarer les autres. Nous devrions cultiver la plus grande pureté en pensée, en parole et en acte. Souvenons-nous que Dieu mène au péché secret à la lumière de sa face. Il existe des pensées et des sentiments suggérés et provoqués par Satan qui troublent même le meilleur des hommes. Mais s'ils ne sont pas caressés, s'ils sont repoussés comme indésirables, l'âme ne sera pas entachée par la culpabilité, et personne d'autre ne sera souillé par leur influence. Oh ! Puissions-nous tous devenir une odeur de vie, donnant la vie à tous ceux qui nous entourent. Réagir en chrétien, il se peut que, jusqu'au jour du jugement, vous ne puissiez jamais mesurer la portée d'une attitude bienveillante, indulgente envers des gens inconséquents, déraisonnables et indignes. Si, devant une attitude provocante et injuste de leur part, vous les traitez comme vous traiteriez un innocent, allant jusqu'à accomplir à leur égard des actes particuliers de bonté, vous agissez en chrétien. Ils en sont surpris, honteux, et ils comprennent leurs actes et leur mesquinerie bien mieux que si vous aviez fait ressortir leur comportement irritant en les accusant. Une grosse pierre d'achoppement, les précieuses qualités que beaucoup possèdent sont cachées, et au lieu d'attirer les âmes au Christ, ils les repoussent. Si ces gens pouvaient mesurer l'influence de leur attitude discourtoise et de leurs paroles agressives sur les incroyants et à quel point un tel comportement est offensant aux yeux de Dieu, ils changeraient leurs habitudes, car le manque de délicatesse est l'une des plus grosses pierres d'achoppement pour les pécheurs. Les chrétiens égoïstes, geignards et acerbes constituent des obstacles, si bien que les pécheurs n'éprouvent pas le désir de venir à Jésus-Christ. L'amabilité, que le Christ se voit dans tout ce que vous faites. Que tous voient que vous êtes des lettres vivantes de Jésus-Christ. Soyez aimables. Que votre vie soit de nature à gagner les cœurs de tous ceux qui entrent en contact avec vous. On fait trop peu de nos jours pour rendre la vérité attractive. Influence des paroles et des actes, toute parole que vous prononcez, tout acte que vous accomplissez exerce une influence pour le bien, ou pour le mal sur ceux avec lesquels vous êtes en relation. Oh ! Combien il est nécessaire que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vos paroles soient des paroles de vie, et que vos œuvres soient des œuvres d'amour. Responsable devant Dieu de l'influence exercée, Dieu tient chacun de nous responsable de l'influence qu'exerce son âme, sur lui-même et sur les autres. Le Seigneur engage les jeunes gens et les jeunes filles à faire preuve d'une grande modération et à être consciencieux dans l'usage des facultés de l'esprit et du corps. Leurs capacités ne peuvent se développer que si elles sont utilisées de manière assidue et avec sagesse pour la gloire de Dieu et pour le bien de leurs semblables. Une atmosphère de foi, il est de la plus haute importance que notre âme soit entourée d'une atmosphère de foi. Chaque jour, nous décidons de notre destinée éternelle d'après l'atmosphère où elle vit. Nous sommes personnellement responsables de l'influence que nous exerçons. Des conséquences que nous ne voyons pas résulteront de nos paroles et de nos actes. Puisque le Seigneur était disposé à sauver Sodome par égard pour dix justes, quelle ne serait pas l'influence bénéfique de la fidélité du peuple de Dieu, si tous ceux qui se réclament du nom du Christ étaient revêtus de sa justice? Si Dieu pouvait préciser le domicile et la profession de Simon le corroyeur et indiquer au centurion que sa maison était située au bord de la mer, il nous connaît nous aussi par notre nom, sait quelle est notre profession, où nous vivons et quel est notre vécu. Le Seigneur sait si nous débarrassons le chemin du roi de toute impureté et de tout obstacle afin qu'il attire nos âmes toujours plus loin et toujours plus haut, ou si au contraire nous encombrons de saleté son chemin, bloquant notre propre sentier et plaçant des pierres d'achoppement sur celui des pécheurs, faisant ainsi obstacle au salut des âmes précieuses pour lesquelles le Christ est mort. Des gens aux dispositions variées, le Seigneur veut que nous soyons sanctifiés. Nous aurons affaire à des gens aux dispositions variées, et nous devons savoir comment aborder les esprits humains. Nous devons demander au Christ de nous donner de prononcer des paroles qui seront une bénédiction. En cherchant à aider les autres, nous serons nous-mêmes bénis. Une œuvre particulièrement importante, cette tâche, la réprimande, est la plus délicate, la plus difficile qui ait jamais été confiée à un être humain. Elle nécessite un tact, une sensibilité extrême, une connaissance profonde de l'être humain, une foi et une patience céleste, une volonté intense de travailler, de veiller, d'attendre. C'est une œuvre plus importante que toute autre. Une œuvre délicate entre toutes, s'occuper des esprits humains est chose bien délicate. Si vous faites preuve de raideur, vous ne toucherez pas les cœurs. Mais si vous vous approchez d'une âme affligée avec un cœur plein d'amour, vous la détournez du champ de bataille de l'ennemi, là où elle serait la proie des tentations de Satan. À chacun ses épreuves, nous ne pouvons pas nous permettre d'être un obstacle pour les autres. Chacun a ses propres tentations et ses propres épreuves, et nous devons faire en sorte que nous puissions aider et réconforter ceux qui sont tentés. Nous devons encourager et, si possible, fortifier ceux qui sont faibles dans la foi. En rappelant les promesses de Dieu, nous pouvons parfois sauver du découragement les esprits de ceux qui sont éprouvés et en difficulté. Message adressé à une femme, j'ai reçu du Seigneur instruction pour vous dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Le Sauveur vous demande de rester en contact étroit avec lui. Parlez comme il aurait parlé, et agissez comme il aurait agi. Ne permettez à personne de troubler votre esprit, et vous inciter à parler de manière imprudente. Gardez votre âme pure et limpide et vos pensées nobles et sanctifiées. Ne louez pas et n'exaltez pas les gens à leur détriment, et ne vous hâtez pas de condamner ceux qui, à vos yeux, n'agissent pas comme ils le devraient. Que tous voient que vous aimez Jésus et que vous croyez en lui. Montrez à votre mari et à vos amis croyants ou non que vous désirez qu'ils comprennent la beauté de la vérité. Mais ne manifestez pas cette anxiété pénible, inquiétante, qui souvent nuit à une bonne œuvre. La véritable éducation, ce qui tire le meilleur parti des privilèges et des occasions qui se présentent à eux seront, au sens biblique du terme, des hommes talentueux et cultivés. Non pas seulement des hommes instruits, mais des hommes éduqués en ce qui concerne l'esprit, le savoir-vivre et le comportement. Ils seront raffinés, sensibles et affectueux. D'après ce que le Seigneur m'a montré, c'est ce qu'il demande de son peuple. Dieu nous a donné des capacités qui doivent être employées, développées et fortifiées par l'éducation. Nous devons raisonner et réfléchir, pour bien saisir les relations de cause à effet. Quand cela sera mis en pratique, il y aura chez beaucoup une plus grande prudence en parole et en acte qui leur permettra de réaliser pleinement le dessein de Dieu pour leur vie. Franchise et confiance, message destiné à un médecin, s'il y avait beaucoup plus de franchise et moins de dissimulation, si l'on encourageait la confiance entre frères, s'il y avait moins d'égoïsme et davantage d'esprit du Christ, si vous aviez une foi vivante en Dieu, le nuage dont Satan obscurcit l'esprit serait dissipé. Non à la mesquinerie, n'oubliez jamais que vous êtes des réformateurs, non des bigots. Quand vous avez à traiter une affaire avec des incroyants, ne faites pas preuve d'une mesquinerie sordide. Si vous chipotez pour une somme dérisoire, au bout du compte vous perdrez beaucoup. Car ces gens penseront. Cet homme-là est un roublard, si vous avez affaire à lui, soyez sur vos gardes, car s'il pouvait vous tromper, il le ferait. Mais si, lorsque vous traitez une affaire, vous renoncez à une petite somme qui vous est due au bénéfice d'une tierce personne, celle-ci fera preuve de la même générosité à votre égard. La mesquinerie engendre la mesquinerie. L'avarice appelle l'avarice. Ceux qui se laissent aller à de telles travers ne se rendent pas compte à quel point ils se rendent méprisables aux yeux des autres, notamment aux yeux de ceux qui n'appartiennent pas à notre Église, et la réputation de la vérité sacrée s'en trouve flétrie. Honnêteté, quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous devons être parfaitement honnêtes. Nous ne saurions nous permettre de transgresser un seul des commandements de Dieu pour un gain de ce monde. Qui sommes-nous? Le Christ dit à ses disciples, « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Une qualité primordiale, dans tous les détails de la vie, les principes de la plus stricte honnêteté doivent être respectés. Ce ne sont pas là les principes qui régissent le monde, car Satan, le trompeur, le menteur et l'oppresseur, est le maître, et ses sujets le suivent et exécutent ses plans. Mais les chrétiens servent un tout autre maître, et leurs actions doivent être accomplies selon Dieu, indépendamment de tout intérêt égoïste. Le fait de manquer à l'honnêteté parfaite en affaires peut être regardé comme insignifiant aux yeux de certains, mais ce n'est pas ainsi que notre Sauveur voit les choses. Sa parole à cet égard est sans équivoque, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Celui qui trompe son voisin sur un petit détail le trompera sur un point plus important si l'occasion se présente. Aux yeux de Dieu, un mensonge portant sur une question mineure est tout autant une malhonnêteté qu'une tromperie sur un point plus important. De nos jours dans le monde chrétien, on pratique la fraude à un degré effrayant. Le peuple qui garde les commandements de Dieu doit montrer qu'il est au-dessus de tout cela. Ceux qui professent croire à la vérité présente ne devraient jamais user de pratiques malhonnêtes qui faussent les relations de l'homme avec ses semblables. Le peuple de Dieu nuit grandement à la vérité en se permettant le moindre écart sur le plan de la probité. Un homme peut ne pas avoir un physique séduisant, il peut avoir des lacunes sur bien des points, mais s'il jouit d'une réputation d'honnêteté exemplaire, il sera respecté. Une intégrité sans faille couvre de nombreux traits de caractère défectueux. Celui qui se range résolument du côté de la vérité gagnera la confiance de tous. Ses frères en la foi ne seront pas seuls à lui faire confiance, mais les incroyants eux-mêmes seront obligés de le reconnaître comme un homme d'honneur. Comme de l'or pur, bon gré mal gré, les serviteurs de Dieu sont obligés d'entrer en contact avec les gens du monde pour leurs relations d'affaires, mais ils devraient négocier avec eux en sachant que Dieu les regarde. Ils ne doivent employer ni balance fausse ni faux poids, car ces choses sont en horreur à l'Éternel. Dans toutes ses relations d'affaires, un chrétien doit être exactement ce qu'il veut que ses frères pensent de lui. Ses actes doivent être inspirés par des principes fondamentaux. Il n'emploie pas la ruse. Il n'a donc rien à cacher, rien à maquiller. Il se peut qu'il soit critiqué, mis à l'épreuve, mais son intégrité sans faille brillera comme de l'or pur. Il est une bénédiction pour tous ceux qui entrent en contact avec lui, car c'est un homme de parole qui n'abusera pas de son prochain. C'est un ami et un bienfaiteur de tous, et ses semblables se fient à ses conseils. Si l'emploi des ouvriers pour moissonner ses champs, l'argent qu'ils ont durement gagné ne sera pas frauduleusement retenu. S'il dispose d'argent dont il n'a pas besoin immédiatement, il l'emploiera pour venir en aide à l'un de ses frères moins favorisés que lui. Il ne cherche pas à accroître ses propres terres ou à se remplir les poches en tirant profit des circonstances défavorables dans lesquelles son semblable se trouve placé. Son objectif est de venir en aide et de faire du bien à son prochain. Un homme honnête ne profitera jamais des faiblesses ou des incapacités d'autrui pour remplir sa bourse. Il acceptera un juste équivalent pour ce qu'il vend. Si les articles qu'il vend ont des défauts, il ne manquera pas de le dire à son frère ou à son voisin, même si c'est au détriment de ses intérêts pécuniaires. Comprendre les humains, celui qui veut transformer les hommes doit d'abord les comprendre. C'est seulement par la sympathie, la confiance et l'amour qu'on peut les atteindre et les relever. C'est là que le Christ se révèle le maître des maîtres, lui seul, de tous ceux qui ont vécu sur cette terre, a parfaitement pénétré l'âme humaine. Il existe une science qu'il faut exercer quand on s'occupe de ceux qui sont particulièrement faibles. Si nous voulons enseigner les autres, nous devons d'abord nous mettre à l'école du Christ. Il nous faut avoir une largeur de vue qui nous permette d'accomplir un vrai travail missionnaire médical et faire preuve de tact pour traiter les esprits comme il convient. Ceux qui ont certainement le moins besoin d'aide sont probablement ceux qui bénéficieront le plus de notre attention. Mais il nous faut une sagesse particulière pour nous occuper de ceux qui semblent irréfléchis et inconséquents. Certains ne comprennent pas le caractère sacré de l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont le moins de capacité, les irréfléchis, et même les indolents, exigent nos soins particuliers et le soutien de nos prières. Nous devons traiter avec tact ceux qui paraissent ignorants et qui se sont égarés. Grâce à des efforts persévérants en leur faveur, nous devons les aider à se rendre utiles dans l'œuvre du Seigneur. Ils réagiront positivement devant des efforts patients, attentifs et affectueux. Nous devons coopérer avec le Seigneur Jésus pour rendre la pureté aux incompétents et aux égarés. Cette œuvre égale en importance celle du ministère évangélique. Le Seigneur nous appelle à faire preuve d'un intérêt constant, inlassable pour le salut de ceux qui ont besoin du polissage divin. Artisans de paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qui donc les désigne ainsi? Les intelligences célestes. N'encouragez donc personne à vous confier les griefs d'un frère ou d'un ami. Dites que vous ne voulez pas entendre de telles paroles de censure et de reproche parce que votre conseiller vous a dit dans sa parole que si vous cessez d'attiser les disputes, si vous devenez un artisan de paix, vous serez béni, et que telle est la bénédiction à laquelle vous aspirez. Pour l'amour du Christ, ne dites pas de mal et ne pensez pas de mal. Que le Seigneur nous aide non seulement à lire la Bible, mais à pratiquer ses enseignements. Celui qui est fidèle dans son œuvre, qui allie la douceur à la puissance, la justice à l'amour, fait se réjouir les intelligences célestes et glorifie Dieu. Efforçons-nous d'être bons et de faire du bien, et nous recevrons la couronne de vie qui ne se flétrit pas. Quand les faibles deviennent forts, certains pécheurs tombés très bas deviennent parfois, lorsque la lumière a pénétré dans leur cœur, des messagers particulièrement efficaces auprès de ceux qui suivent encore le mauvais chemin. Soutenus par la foi, quelques-uns assument de lourdes responsabilités dans l'œuvre du salut des âmes. Ils savent quelle est la faiblesse, la dépravation, la force du péché et des mauvaises habitudes de ceux qui ne connaissent pas encore le salut. Incapables de triompher sans le Christ, ils s'écrient à chaque instant, « Mon espoir est dans le Sauveur ». Avec douceur, n'essayons pas de faire des efforts par nous-mêmes ou avec l'aide d'autrui. Mais reposons-nous sur le Saint-Esprit. Traitez les êtres humains avec douceur. Avec des cœurs pleins d'affection spirituelle, frayez-vous doucement un chemin dans les cœurs. Que vos paroles soient imprégnées de l'huile céleste qui provient des deux branches d'olivier. Il nous faut l'huile dorée versée dans des vases préparés à cet effet, pour qu'elle soit communiquée à ceux qui cherchent la vérité. Souvenons-nous toujours que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.